Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Françoise Thibault.
Dans le cadre de Partager le savoir, nous allons clôturer notre voyage international. En effet, en une douzaine d'émissions sur le partage du savoir, je vous ai fait courir le monde, peut-être découvrir des universités où la culture française, les Français étaient reçus et appréciés. Je crois que nous allons nous arrêter là pour cette fois, car ce serait quelque peu répétitif. Et j'ai assez volontairement laissé de côté les nombreuses universités européennes, notamment britanniques, allemandes et italiennes, car nous entamerons bientôt un cycle de partager le savoir avec les conseillers culturels et universitaires des ambassades de ces pays qui sont certainement beaucoup plus compétents que moi-même. Toutefois, on ne saurait clore cet ensemble de voyages qui nous a menés de la Pologne à l'Australie, de l'Argentine à Singapour, de Montréal à Cape Town, sans nous interroger et essayer de faire une petite réflexion de synthèse. En effet, que tirer de ce cosmopolitisme que nous apporte à nous Français qui sommes les champions de l'enseignement depuis le lycée de Bonaparte, Ferry et Grévy, l'expérience étrangère? En fait, j'ai beaucoup appris en côtoyant des universitaires de pays très variés, des étudiants du monde entier. Et je peux m'aventurer à faire quatre remarques principales. La première, c'est que l'empreinte profonde n'est peut-être pas aussi américaine que l'on pense, elle est surtout britannique, partout dans le monde, y compris en Amérique latine et dans des endroits un peu inattendus. Les Nord-Américains, Canadiens et Américains réunis n'ont fait que reprendre finalement un modèle britannique en y ajoutant une volonté de rentabilité sociale immédiate et un coût élevé des études. C'est un mécanisme, je dirais, quasiment inévitable. Pour avoir les meilleurs enseignants, les meilleurs chercheurs, quelle que soit la discipline, il faut leur assurer une vie personnelle à peu près sereine et un univers de travail correct. Il faut donc trouver de l'argent, il faut donc bien les rémunérer et investir dans des institutions qui soient utiles. L'usager de cet apport en savoir, l'étudiant, a un prix à payer. La collectivité aussi, que les fonds viennent des institutions collectives, publiques ou de l'activité économique privée. Sans tomber dans les excès nord-américains, par exemple les rémunérations des professeurs indexées sur la réussite de leurs étudiants au concours, les pays où les études fonctionnent bien et sont socialement adaptées sont des pays où on a réussi à agglomérer la tradition européenne de l'université ouverte à tous et l'impératif économique et financier de la rentabilité. Vouloir écarter le monde du savoir, du monde de l'argent serait à notre époque complètement illusoire. La seconde réflexion que je peux faire, c'est le recul relatif, je dis bien relatif, de la langue et de la culture française. Recul par rapport à la masse des gens, au nombre, il faut être lucide. La langue française est une langue difficile, subtile, peu technologique. Mais ce recul est tout relatif. En effet, le français tend à devenir une langue d'élite. On pourrait presque dire une langue snob. La langue française est de moins en moins, sauf en Afrique, qu'elle soit du Nord ou subsaharienne, une langue véhicule. Elle est une langue du savoir. Elle est une langue de la connaissance, notamment littéraire et artistique. Dans les pays de langue anglaise, le français vient souvent en première ou seconde langue. Ailleurs, toujours après l'anglais et l'espagnol, le français est souvent choisi. La langue française est la neuvième langue à être parlée dans le monde, quantitativement, mais elle n'en est pas encore à être une petite langue, comme par exemple, on dénomme l'italien dans le ministère de l'enseignement supérieur français. Je dois dire que la première fois où à une réunion j'ai entendu un administrateur parler de l'italien petite langue, j'ai immédiatement pensé à Dante, Boccace, Goldoni, Lampedusa, Madini, Verdi, Pirandello, Buzzati, Calvino, Pavese, Eco. Car on ne retient pas uniquement l'élément numérique dans une langue, quantitatif, on en retient son influence, sa résonance dans la culture internationale. Il ne faudrait pas que le français subisse le même qualificatif, car à ce moment-là, il faudrait penser à Corneille, Racine, Ronsard, Victor Hugo et tous les autres, et se demander ce qu'est une grande langue ou ce qu'est une petite langue. La promotion du français à l'étranger devrait certainement être beaucoup plus vigoureuse et non pas réservée à des petits cercles intellectuels qui certes diffusent le français mais dans des milieux relativement restreints. Il ne faut plus s'adresser uniquement à des élites. C'est un petit peu un phénomène comme le panotage dans les villes qui est fait pour ceux qui connaissent déjà le parcours. Les informations sur le français s'adressent presque exclusivement à des gens qui, qu'ils soient chercheurs, enseignants ou étudiants, ont déjà un début de culture française. Il faudrait faire un effort de ce côté-là. La troisième réflexion que l'on peut faire, c'est notre archaïsme universitaire. Il est terrifiant. Partout où je suis allée, de la Pologne à Buenos Aires, de Sydney à Boston, d'Helsinki à Singapour, de Cape Town à Grenade, l'étudiant est vécu comme un investissement sur l'avenir. Il est l'avenir. À ce titre, il est encouragé, protégé, choyé. Il n'est pas vécu comme une charge. Il ne lui est pas imposé d'être pauvre et pauvrement traité. Les campus sont souvent des villes dans la ville, avec des magasins, de l'hôtellerie, de bons logements pour les enseignants, les chercheurs, le staff administratif, les étudiants. Ils ont des stades, des laveries, des lieux de divertissement, des bibliothèques ouvertes 24 heures sur 24, d'excellents transports en commun, rapides, qui vous remettent immédiatement dans le centre du centre de la vraie ville. À l'étranger, on mesure toute la misère, la vie misérable de nombreux étudiants français. Au prétexte que l'enseignement dit supérieur est ouvert à tous, on laisse végéter notre jeunesse dans des lieux souvent à la limite du sordide, dans des banlieues tristes, sans équipement, sinistres, sans vie sociale. Être étudiant en France, je ne parle pas des grandes écoles, et souvent être un semi-exclu, un citoyen de deuxième zone. L'étudiant doit être pauvre et pauvrement traité, on en est encore à Musset, claquant du bec dans sa soupente. La loi du nombre écrase tout. L'étudiant peut et doit être le centre, le pôle de la vie sociale, et à ce titre vécu comme un citoyen raisonnable, un consommateur également. La culture est devenue un objet de consommation, qu'on le veuille ou non. En vivant dans de beaux endroits, il apprendra à respecter son environnement. Cela ne veut absolument pas dire que l'enseignement supérieur est réservé aux riches. Bien au contraire, des systèmes de bourses et de prise en charge privées, publiques, moyennant de bons résultats aux examens, permettent à tous, qu'il s'agisse de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Australie ou de l'Asie, permettent à tous d'espérer une bonne formation dans un cadre approprié et surtout d'être rapidement rentable, c'est-à-dire de rembourser rapidement la société de l'effort qu'elle a fait pour vous. Être étudiant, c'est aussi, il ne faut jamais l'oublier, rappelons-le à nos administrateurs, c'est aussi refaire le monde dans les bistrots avec ses copains, aller au cinéma, lire en bibliothèque jusqu'à 3 heures du matin si le cœur vous en dit, c'est partager des repas, des voyages, des loisirs avec la société tout entière et non pas être confiné dans des sortes de ghettos sans arbres, sans bancs, sans magasins, sans âme, sans destin, où tout est fermé à 15 heures et en pensant uniquement au couperet de l'examen. Enfin, la quatrième remarque que je peux faire, pour avoir fréquenté des centaines d'étudiants voyageurs français et de nationalités très variées, et en vertu des conclusions de la Global Education Convention de 2005, la fameuse GEC, quatre qualités sont requises pour être un étudiant voyageur, un étudiant cosmopolite, un expatrié. Quatre qualités qui, à notre avis, sont absolument indispensables et sur lesquelles nous avons beaucoup disserté avec les étudiants à l'avant-dernière réunion à Montréal. La première qualité, c'est pour un étudiant, ou pour un chercheur d'ailleurs, mais surtout pour un étudiant, c'est d'abord qu'il ait envie d'aller à l'étranger. Rien n'est plus catastrophique qu'un étudiant qui n'a pas vraiment envie d'étranger. Partir uniquement pour imiter les autres ou faire plaisir à son professeur, c'est contre-productif au possible. L'étudiant vivra en anxiété permanente, rentrera souvent prématurément, donc son semestre est fichu et par conséquent son année universitaire, et en plus il donnera une très mauvaise image de l'établissement et du pays dont il provient. Par ailleurs, certaines disciplines n'ont absolument pas besoin de séjours à l'étranger qui sont coûteux à la fois pour l'établissement et les familles. La deuxième qualité requise, c'est que l'anglais ou la langue du pays d'accueil doivent être parfaitement maîtrisées. Il faut être capable non seulement de vivre dans une langue étrangère, mais de prendre des notes, de comprendre l'idiome local parfaitement, de répondre aux questions, de rédiger des copies et des formulaires. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de préparation. Il est criminel d'envoyer des étudiants à l'étranger qui balbutient à peine la langue dans laquelle ils seront immergés. On aura l'effet exactement inverse de celui recherché. Ils resteront isolés, se sentiront complètement stupides et reviendront absolument dégoûtés de la communication internationale. La troisième qualité requise, c'est un très bon niveau d'études, de bonnes notes. L'envoi de crétins parce qu'il ne faut pas perdre les crédits pour faire plaisir à un collègue ou parce qu'il n'y a personne d'autre est toujours catastrophique. Mieux vaut n'envoyer personne pendant une année qu'envoyer une nullité. Même chose pour les étudiants que l'on accueille, que l'on reçoit. Il y a une sorte de hit parade des États et des universités sérieuses dans l'envoi de leurs chercheurs et de leurs étudiants. Par exemple, la Chine envoie très peu, peut-être 1 sur 200 de mauvais étudiants. Les Australiens, les Autrichiens, les Belges, les Singapouriens sont également extrêmement rigoureux dans leur choix. Les Nordiques sont des gens sérieux. Par contre, pour les Italiens, les Anglais, les Allemands, c'est plus aléatoire. Probablement parce que la quantité est plus importante et que le tri est moins facile à faire. Enfin, quatrième qualité, l'étudiant doit être sociable, aisément adaptable, avec des qualités de sociabilité. Il doit être courtois, respecter les règles locales, avoir un minimum conscience qu'il représente son pays d'origine, son université, et qu'il en donne une image, qu'il le veuille ou non, une image qui sera positive et négative. Il m'est arrivé parfois d'avoir honte du comportement de certains étudiants dans des campus étrangers. Je partais très très vite en parlant n'importe quelle langue étrangère, mais surtout pas le français. Je ne voulais absolument pas être associée à ces philistins. Il y a également un défaut des Français qui est très connu à l'étranger, c'est que les étudiants français ont un peu tendance à rester entre eux. Avant leur départ dans le pays d'accueil, surtout si le pays dans ses mœurs et ses coutumes est très différent du nôtre, il doit avoir été un minimum informé, notamment en ce qui concerne les vêtements, la nourriture, les règles de courtoisie, les horaires, les jours fériés, les religions. Ne pas faire de gaffe, se montrer discret et courtois, c'est la règle nécessaire à une bonne relation internationale. Pratiquer le cosmopolitisme culturel est donc un apprentissage qui permet de se remettre en question parfois, de relativiser son propre savoir, de prendre conscience que le monde est vaste, toujours différent, mais toujours identique. Pour terminer, un article terrifiant. Un article au Vitriol relatif à l'université de Paris-10-Nanterre a été publié dans les colonnes, en plus le début de cet article est en première page, de l'International Herald Tribune à la fin du mois de mai. Il a donc été lu par des centaines de milliers de personnes. C'est un article terrifiant, mais qui est malheureusement tout à fait honnête et véridique. On y apprend en langue anglaise que l'université de Paris-10-Nanterre compte 34 000 étudiants sur, je cite, un pseudo-campus, sorte de terrain vague coincé entre une prison et une agence de la NPE, où les bibliothèques sans livres sont fermées le dimanche et les jours fériés, ouvertes seulement 8 heures par jour, où seulement 30 ordinateurs sur les 100 que compte le centre d'information sont branchés sur Internet, où les cafétérias, les rares fois où elles ont un responsable, ferment après le déjeuner et où à 17 heures, il n'y a plus un rat. Il n'y a aucune librairie, aucune boutique d'alimentation, aucun guichet de banque, il n'y a ni poste, ni panotage correct. Les professeurs n'ont pas de bureau. Les jours d'examen, les étudiants sont tellement nombreux qu'ils doivent eux-mêmes chercher une chaise où s'asseoir. Il n'y a pas de poignée de porte aux portes, il n'y a pas de papier de toilette dans les WC qui sont presque toujours impraticables. Et il est aussi difficile d'arriver que de repartir dans ce campus vu le rythme des transports. Et tout bureau administratif est fermé à 16h30. L'article conclut que l'université Paris-10-Nanterre n'est pas un lieu de savoir, c'est une usine, factory, à faire avancer année par année, tels des boulons sur une chaîne de fabrication, un flot d'étudiants de plus en plus incultes et ingérables. Je vous laisse apprécier.